Le journal avec Julie Pacaud. Bonjour Julie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, ce matin, une balade en mer vire au drame dans la Manche. 3 enfants sont morts hier dans le naufrage d'un bateau de plaisance. Ils ont été pris au piège dans la cabine. La commune est sous le choc. Les autres titres, Julie ?
L'Italie plongée dans l'incertitude alors que les parlementaires ne sont pas parvenus à se mettre d'accord hier. La motion de censure est à nouveau examinée aujourd'hui au Sénat. Les marchés financiers et agences de notation veillent au grain. En Russie, un Français de 40 ans comparaît aujourd'hui après 5 mois de détention provisoire. Il est poursuivi pour tentative de corruption lors d'un contrôle d'identité. Le cancer du col de l'utérus tue 1000 femmes chaque année en France, mais un nouveau test pourrait améliorer son dépistage. Reportage. L'avenir de Neymar au PSG continue d'alimenter les spéculations et les tensions et divise au sein même des familles.
Les invités du 6-9 de l'été, Léa Drucker, à 8h moins le quart, elle est à l'affiche d'un film sur les écrans. Demain, je promets d'être sage. 8h20, le grand entretien avec François Hesbourg, conseiller à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Avec lui, analyse des grands dossiers diplomatiques du moment. L'Italie, Hong Kong, Daesh en Irak, le retour. Et vos questions pour François Hesbourg, dès maintenant, au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
La commune d'Agon, Coutainville dans la Manche, se réveille sous le choc après le drame survenu hier à quelques centaines de mètres de la plage. 3 enfants, 2 de 7 ans et un troisième de 11 ans sont morts, coincés dans la cabine d'un bateau de plaisance qui a chaviré. Leur embarcation s'est retournée dans une mer agitée. Les 3 adultes présents à bord ont été éjectés mais ont pu être rapidement secourus par la SNSM qui n'a pas réussi à sauver leurs enfants.
Jamais je n'avais fait une telle intervention, raconte Pascal Duteau. C'est le président de la station SNSM de Coutainville. Avec un autre bénévole de la SNSM et des membres de l'école de voile voisine, il a tenté de sauver les enfants qui étaient restés bloqués dans la cabine de ce bateau à moteur.
Quand on est arrivé sur zone, la cabine était pleine d'eau. On voyait juste le nez du bateau, qui était déjà pris en charge par l'école de voile, dont une personne de l'école de voile qui essayait de casser le pare-brise du bateau. On n'avait pas de marteau, on n'avait rien, donc il a pris l'ancre qui était à sa disposition.
Ils réussissent à casser le plexiglas, dégager les enfants, les ramener sur la plage, mais tous sont inconscients et les secours ne parviendront pas à les ranimer. La plage est alors bien sûr interdite d'accès, mais beaucoup d'habitants, de vacanciers sont alertés par les sirènes qu'ils entendent, la présence massive des secours et les rondes de l'hélicoptère de la sécurité civile.
C'est horrible, je n'ai pas de mots là.
Ça nous fait un très gros choc, ça pardonne pas la mer.
Il y avait des vagues de 1 mètre, là. On était un petit peu surpris, nous faisons du bateau. De ce temps-là, on ne sort jamais des bateaux. Il faut rester prudent, la mer est plus forte que nous. Hein.
L'enquête devra déterminer si les règles de sécurité et de navigation ont bien été respectées, mais en attendant, c'est la tristesse qui domine ici. Ça aurait pu être mes 3 enfants, lancé hier soir un commerçant du Passou, les yeux rivés vers la mer.
Lucie Tuillier de France Bleu Cotentin, et un examen des 3 corps des enfants doit être pratiqué ce mardi matin. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a fait part de sa très vive émotion hier soir après ce drame. Une femme de 71 ans tuée en pleine rue dans les Pyrénées-Orientales hier soir à Port-Vendre, au sud de Perpignan. Son ex-conjoint lui a asséné plusieurs coups de couteau devant son domicile, dont un au cœur. La femme a succombé à ses blessures avant l'arrivée des secours. L'homme avec qui elle était en instance de divorce a été interpellé et placé en garde à vue. C'est la 88e femme tuée par son conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Les pratiques d'une unité de police à Saint-Ouen passées au peigne fin de l'IGPN. Le parquet de Bobigny a confié une seconde enquête à la police des polices pour des violences présumées commises par une unité déjà impliquée dans l'interpellation musclée d'un jeune homme vendredi. Interpellation filmée largement diffusée sur les réseaux sociaux. Cette seconde enquête concerne également des violences présumées qui se seraient déroulées vendredi. 2 jeunes auraient été emmenés dans un hall d'immeuble avant d'y être frappés. L'affaire Epstein crée des remous en France. Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain proche de personnalités politiques américaines, retrouvé mort dans sa cellule vendredi, était poursuivi pour de multiples agressions sexuelles de mineurs. 2 membres du gouvernement, Marlène Schiappa et Aurélien Taquet, réclament l'ouverture d'une enquête en France sur les possibles agissements du milliardaire. Propriétaire d'un appartement à Paris, Epstein avait fait de multiples voyages jusqu'à son interpellation le mois dernier. Une demande balayée hier soir par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Les poursuites ne sont pas des décisions du gouvernement, dit-elle, en soulignant l'indépendance de la justice.
Il est 7h05, le journal Julie Pacaud. Julie, les marchés financiers s'inquiètent pour l'Italie.
La crise politique qui secoue la péninsule depuis la semaine dernière fait craindre une nouvelle instabilité économique. Déjà pointé du doigt pour son niveau d'entêtement excessif, Fabien Cazzo, l'Italie a plus que jamais le bonnet d'âne, dans les yeux des investisseurs et des agences de notation.
C'est la troisième économie de la zone euro et pourtant l'Italie n'en finit plus de se débattre avec sa dette, son taux de chômage et sa croissance au ralenti. La coalition populiste au pouvoir n'a pas su faire de miracle, pas même en tentant de s'affranchir des exigences budgétaires de Bruxelles qui l'avait vite rappelé à l'ordre il y a quelques mois. Rome avait finalement accepté de ramener sa prévision de déficit à 2% pour l'année 2019. Pas de quoi améliorer toutefois les conditions dans lesquelles l'Italie emprunte sur les marchés pour financer sa dette. Les taux d'emprunt à 10 ans sont au plus haut, signe de la défiance qu'éprouvent les investisseurs à l'égard de l'économie italienne. Les agences de notation maintiennent pour le moment leur perspective négative sur l'économie du pays. Le taux de chômage s'élève à 9,7%, largement au-dessus de la moyenne européenne. Pour 2019, la Commission table sur une très faible croissance de l'économie italienne à plus 0,1%.
Fabien Cazot, le gouvernement italien sera fixé sur son sort aujourd'hui. Le Sénat se penche sur la motion de censure déposée la semaine dernière par la Ligue de Matteo Salvini. Panique aussi sur les marchés financiers argentins. La bourse de la troisième économie d'Amérique a dévissé de 38% à la clôture hier soir. Le peso, la monnaie argentine, a perdu près de 19% de sa valeur. Conséquence de la défaite surprise du candidat libéral Mauricio Macri. L'actuel chef de l'État se présentait aux primaires en vue des prochaines élections présidentielles prévues en octobre. Sa possible débâcle inquiète les marchés financiers qui craignent le retour de la gauche au pouvoir. De la pure spéculation, voilà comment le Quai d'Orsay se défend des accusations de la rapporteure spéciale de l'ONU, Agnès Callamand. Elle soupçonne la France d'avoir fait transférer illégalement en Irak 7 combattants arrêtés en Syrie. Ces djihadistes ayant servi le groupe État islamique auraient selon elle subi des tortures et des mauvais traitements. Il est détenu en Russie depuis le 23 mars dernier. Gurvan Le Gall, un Français de 40 ans, est soupçonné d'avoir voulu corrompre des policiers lors d'un contrôle d'identité. Des accusations qu'il nie fermement. Il est également poursuivi par la justice russe car ses papiers n'étaient pas en règle. Ce professeur de français venu en Russie pour y rouvrir une école de langue crie au malentendu depuis Togliatti, ville de l'est du pays où il est en détention provisoire depuis le printemps dernier. Benjamin Elie.
Une affaire confuse, à en croire la défense, c'est un quiproquo qui se termine derrière les barreaux.
S'il y a un mot, ce serait certainement, alors ce serait peut-être deux, mais je pense que c'est non-sens et puis disproportion.
Alexandre Delavé, l'avocat de Gurvan Le Gall, professeur de français contrôlé le 21 mars à Togliatti, les policiers ont considéré qu'il n'avait pas le bon visa pour exercer son activité en Russie.
Dans le cadre de ce contrôle d'identité, il lui est reproché, pénalement, d'avoir essayé de donner de l'argent, donc d'avoir essayé de corrompre un fonctionnaire de police pour éviter une amende.
Est-ce que Gurvan Le Gall a remis cette somme d'argent aux policiers d'un montant d'environ 200 euros.
Là où Gurvan Le Gall lui est convaincu de payer une amende à ce moment-là, les fonctionnaires de police estiment que Gurvan Le Gall donne une somme d'argent pour essayer d'éviter, à l'inverse, une amende.
Quelles sont les conditions de détention de Gurvan Le Gall ?
Sa famille a demandé des permis de visite, nous également on a demandé des permis de visite qui ont été tous rejetés. Pour un problème administratif, on a un ressortissant français qui est en détention depuis plus de 6 mois et qui risque 8 ans de prison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on appelle de nos voeux le fait qu'il y ait une réaction de la part des autorités françaises, qui soient beaucoup plus fermes sur ce qui est en train de se passer.
Un dossier suivi de près, nous dit pourtant le Quai d'Orsay, qui affirme avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour assurer la protection consulaire de Gurvan Le Gall.
7h09 sur France Inter. Il tue un millier de femmes chaque année en France, Julie.
Le cancer du col de l'utérus pourrait être mieux dépisté dans les prochaines années grâce à la mise au point d'un nouveau test élaboré par les chercheurs de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, seul le frottis permet de détecter une infection au papillomavirus, responsable du col de l'utérus, recommandé chez toutes les femmes de 25 à 65 ans. Une détection qui a des limites, car 3200 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Daniel Messager.
Le dépistage du cancer du col de l'utérus est insuffisant. Seul un peu plus de la moitié des familles ont recours. Il consiste surtout à pratiquer un frottis. La Haute Autorité de Santé a recommandé récemment l'usage d'un test. Mais là encore, le dépistage n'est pas optimal car les tests actuels détectent la présence de papillomavirus qui certes peuvent provoquer des cancers mais pas forcément. Et il y a donc beaucoup de faux positifs. Ce qu'il faut savoir, c'est y a-t-il présence de lésions précancéreuses dans les cellules ? Seul ce test tests mis au point par l'Institut Pasteur peut les déceler. Marc Éloi est responsable du laboratoire de recherche de pathogènes.
Ce test vise à identifier au sein de ces cellules la présence de certains gènes qui sont responsables du cancer du col. On recherche des marqueurs de cancérisation puisqu'il y a un grand nombre de papillomavirus différents qui peuvent être responsables du cancer du col. Et ce qu'on a fait, nous, c'est d'utiliser les outils modernes de la génomique pour regarder tous les virus en même temps et tous les marqueurs possibles en même temps.
Grâce à ce test, il sera ainsi possible de mieux diagnostiquer les stades précancéreux et d'intervenir plus rapidement. Compte tenu du temps de développement industriel, il devrait être disponible d'ici 3 à 5 ans.
Daniel Messager, 30 massifs des Bouches-du-Rhône et du Var interdits d'accès aujourd'hui en raison des risques d'incendie très sévères. La totalité des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône ainsi que 7 massifs varois. Près de 700 pompiers de toute la France sont arrivés en renfort dans la région. Quand les politiques se reconvertissent, Jérôme Lavrieux, ancien député européen et ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, a désormais une nouvelle vie. Il est patron d'un gîte dans le Périgord. Une façon de passer à autre chose, de se faire oublier un peu aussi, dans l'attente de son procès. Jérôme Lavrieux sera jugé en 2020 dans l'affaire Big Malion. Celle des dépassements des frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Manon Le Terque est allé à sa rencontre au mât des Omettes.
Ça va? Everything is okay?
Jérôme Lavrieux salue les vacanciers des Anglais qui logent dans son gîte acheté en 2014 et ouvert depuis le 6 juillet. L'hôtellerie-restauration, c'est une reconversion pour l'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy.
J'ai toujours rêvé un jour de changer de vie. Et puis l'histoire a fait que ça s'est un peu précipité, ce changement de vie, puisqu'il m'est arrivé ce que tout le monde sait. Il faut bien gagner sa vie. Il n'y a pas de saut métier. Je le fais maintenant en faisant le ménage pour des Anglais, des touristes. Toute ma vie, j'ai un peu fait le ménage pour d'autres élus, d'une autre manière.
Les clients n'évitent pas son gîte. Au contraire, il est même rempli à 90% cet été.
Vous savez, avec Google, tout le monde est au courant de tout. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas une espèce de monument en péril qu'on viendrait visiter pour découvrir.
Jérôme Lavrieux attend l'ouverture du procès. Il est prévu pour fin 2020 ou en 2021.
Je me soumettrai au jugement qui sera rendu au nom des Français, pas par l'opinion publique, mais par des juges. Et je leur fais toute confiance pour apprécier les conditions dans lesquelles tout ceci s'est passé.
Il pourrait aussi faire son retour en politique et avoue à demi-mot soutenir l'équipe municipale actuelle de Saint-Quentin, sa ville d'origine dans les Hauts-de-France. Réponse en mars 2020.
Manon Le Terque de France Bleu Périgord. Voilà un nouveau sujet de discorde lors des dîners en famille. Neymar va-t-il quitter le PSG? Dimanche soir, les ultras l'ont largement insulté au Parc des Princes lors du match face à Nîmes. Alors restera-t-il ou pas? La question divise dans les familles de supporters, comme Alexandre et son père Jean-Pierre.
Pour l'instant, je préférais qu'il parte, vu ce qu'il a dit envers le Paris Saint-Germain. C'est une grosse déception parce qu'il était venu avec des objectifs et finalement il ne les respecte pas. Peut-être qu'il ne se sentait pas à sa place au Paris Saint-Germain. Il m'a déçu.
Il ne va pas aimer qu'il reste Neymar, parce que c'est un joueur qui est fabuleux et le tandem avec Mbappé fait une doublette unique au monde. Quoi. Et ils ont fait tellement de belles choses l'année dernière. Et c'est vraiment la pièce qui manque au Paris Saint-Germain. Il manque un vrai numéro 10, quelqu'un qui distribue. Et voilà, moi je souhaite qu'il reste.
Le PSG qui joue à nouveau dimanche à 21h face à Rennes.
C'était le journal de Julie Paco.